Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Les célébrations du Nouvel An interdites au Maroc, une mesure dans le cadre de restrictions pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le pass vaccinal obligatoire dès demain en Tunisie. Toute personne âgée de plus de 18 ans devra présenter ce document pour accéder aux espaces ouverts au public. Pour que ce genre de drame ne se reproduise plus jamais, des mots de la coordinatrice nationale d'Utopia 56, Charlotte Cointès, après que l'ONG a porté plainte pour homicide involontaire contre des représentants des autorités françaises et britanniques. Une plainte après la mort d'au moins 27 exilés lors d'un naufrage dans la Manche le 24 novembre dernier. Charlotte Cointès sera l'une de nos invitées. Retour dans votre édition sur la victoire de l'Algérie. Samedi, lors de la finale de la Coupe arabe des Nations, nous écouterons le journaliste et romancier algérien Adlan Mehdi. Il salue notamment le fair play de la Tunisie après sa défaite face au Fenech. Le Maroc a annoncé l'interdiction des célébrations du Nouvel An, une mesure dans le cadre des restrictions visant à lutter contre la propagation du Covid-19. Et cela fait partie d'une série de mesures qui seront appliquées dans la nuit du 31 au 1er janvier, comme l'interdiction d'organiser des soirées dans les hôtels, restaurants et établissements touristiques, mais aussi la fermeture des restaurants et des cafés à 23h30 et la mise en place d'un couvre-feu nocturne entre minuit et 6h. L'association d'aide aux exilés Utopia 56 a porté plainte pour homicide involontaire contre des représentants des autorités françaises et britanniques. Une plainte après la mort d'au moins 27 exilés lors d'un naufrage dans la Manche le 24 novembre dernier. Ces personnes tentaient de rejoindre le Royaume-Uni. Entretien avec la coordinatrice nationale d'Utopia 56, Charlotte Cointès.
L'objectif premier de cette plainte, c'est de faire déjà la transparence et la lumière sur ce qui s'est passé ce soir du 24. C'est la vérité qui est due aux familles des victimes et aussi aux rescapés, parce qu'il y a des rescapés. Et puis, enfin, le second objectif, c'est bien évidemment que ça ne se produise plus jamais, en fait, ce drame, ce genre de drame. Et par cette plainte, je vise le préfet de la mer du Nord et de la Manche, la direction du Cross Greenet et puis la direction des gardes-côtes anglais. Mais elle est aussi contrée, c'est contre toute personne qui pourrait être révélée, être auteur, co-auteur ou complice de ce drame. Donc voilà, ça peut être élargi et elle porte sur des faits d'omission de porter secours et d'homicide involontaire.
Parce que ce que vous affirmez pour le moment, c'est que les victimes qui tentaient de traverser la Manche sont mortes malgré des appels adressés aux services de secours anglais et français.
C'est ça, donc c'est ce qui est retranscrit en fait dans les témoignages qu'on a, hein, qui sont repris par la plainte, mais qui sont aussi parus dans les médias dès le lendemain du naufrage, et puis aujourd'hui dans certains articles de presse, et c'est confirmé par une source judiciaire qui était en lien avec le journal Le Monde, visiblement, qu'effectivement il y a eu ces appels de passer. Et que les secours ne sont intervenus qu'à la suite de l'appel du pêcheur, en fait, en début d'après-midi, vers 14h. On attend les résultats d'une enquête, bien évidemment. L'objet de la plainte, c'est de mettre toutes les informations suffisantes pour constituer une plainte à disposition. C'est ce qu'on a fait. On pense que c'est trop important de le faire parce que ça laisse suggérer qu'il y a eu un manquement et un défaut d'intervention. Maintenant, reste à l'établir et à enquêter là-dessus, quoi.
Plus globalement, vous demandez un changement radical de la politique migratoire menée aujourd'hui, notamment par la France.
Oui, il y a d'une part déjà que de la non-intervention ne se reproduise plus jamais pour éviter ces drames et que quand il y a signal de détresse en mer, les interventions de secours interviennent immédiatement. Ce qu'on observe par ailleurs, il y a beaucoup de sauvetages qui sont réalisés régulièrement. Voilà, on veut que ce qui s'est passé le 24 n'arrive plus jamais. Et ensuite, effectivement, au global, parce qu'on estime que ce qui s'est passé le 24 est le résultat en fait de politiques migratoires mortifères à la frontière depuis des années et de politiques qui sont menées par la France. Mais du coup, c'est une réelle coordination sur les politiques d'asile et d'accueil qu'il faut mettre en place entre la France, le Royaume-Uni et l'Europe, en fait. Donc, bien évidemment, ça va au-delà.
Ce que vous visez notamment, ce sont les accords du Touquet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que prévoient ces accords ?
Alors, les accords du Touquet, ils prévoient l'externalisation de la frontière britannique, c'est-à-dire que on a de la police britannique sur le sol français et qui vient contrôler les départs de la France vers l'Angleterre. Et inversement, sur le sol anglais, on a la police française qui vient contrôler les retours vers la France. Et donc la frontière est administrativement traversée sur le port de Calais, au car ferry, une fois la douane passée. Et c'est-à-dire que du coup, c'est vraiment... Il y a un gros travail de la police française avec un financement énorme en fait de sécurisation et de forces de l'ordre françaises pour empêcher, disons, les gens de partir vers l'Angleterre. Donc c'est-à-dire que la frontière anglaise en fait est surveillée, contrôlée par la France. Donc c'est ça en gros qu'encadre les accords du Touquet qui encadre majoritairement la migration. C'est cette frontière. Maintenant, rien n'est prévu en fait dans ces accords pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de voyager librement via des papiers en règle. Et c'est ça ce qu'on reproche aux accords du Touquet, c'est que du coup la frontière qui est présente matériellement sur le sol français, en fait, elle vient faire blocage, mais un blocage du coup vraiment mortel pour ces personnes, quoi, qui coûte que coûte vont de toute façon, parce qu'elles n'ont pas d'autre possibilité, tenter de passer cette frontière. Donc c'est pour ça qu'il y a des prises de risque énormes. C'est comme ça qu'on retrouve des dizaines de personnes enfermées dans des camions frigorifiques. Parce que par exemple, pour justement maîtriser l'immigration dite illégale vers l'Angleterre, il y a des dispositifs de contrôle de cette frontière qui sont ahurissants. Des dispositifs policiers, mais aussi une technologie très forte de détecteurs de chaleur humaine. Il y a des espèces de scanners aussi pour voir l'intérieur des camions. Enfin, c'est impressionnant tout ce qui existe pour vraiment éviter cette immigration dite illégale. Mais du coup, les gens, pour contourner toute cette technologie, ils vont dans des camions frigos qui passent par cette même frontière. Mais par contre, bien évidemment, ils passent pas par les détecteurs de chaleur humaine, les camions frigos. Parce qu'a priori, un camion frigo, c'est intenable d'être à l'intérieur. Et du coup, les gens prennent quand même ce risque-là parce que de toute façon, il leur faut traverser cette frontière. Donc nous, on a des appels, Utopia 56 reçoit des appels sur notre téléphone d'urgence régulièrement de personnes qui sont coincées dans des camions frigos. Donc c'est ça, la militarisation de la frontière qu'on alerte sur cette militarisation qui est de plus en plus forte et sur laquelle on met des alertes constamment. Quand je dis « on », c'est des associations, tout ensemble. En fait, ce renforcement de la frontière pousse les gens à prendre des risques de plus en plus insensés, quoi.
Pour vous, le fait de se focaliser sur les passeurs, c'est en quelque sorte prendre le problème à l'envers.
Oui, complètement, c'est ça. Les passeurs, les réseaux de passage, c'est un symptôme qui vient se développer parce que justement, cette frontière est surmilitarisée. Et plus la frontière... Et militarisé, plus il y a de contrôle officiel, et par là, j'entends drone, police, avion Frontex, etc., plus il va y avoir des réseaux qui vont se développer pour contourner ça. Et plus le contournement va devoir passer par des voies dangereuses. Et plus le contournement doit passer par des voies compliquées et dangereuses, moins il est possible pour les gens, effectivement, de le faire par eux-mêmes, déjà, d'une part. Donc, bien évidemment, les passeurs ne sont que le symptôme de cette surmilitarisation de la frontière. Et enfin, depuis des années que le Calaisie est sur un lieu de transit et de passage pour des milliers et des milliers de personnes, les gens, effectivement, passent par des réseaux de passeurs, mais certains, beaucoup, tentent cette traversée aussi de manière totalement autonome, donc sans passeur, et c'est pas pour autant qu'ils ne meurent pas. Donc c'est ça aussi l'hypocrisie de tout le message officiel, le discours officiel des dernières semaines, c'est de faire croire à l'opinion publique que si ces gens meurent, c'est à cause des passeurs. Non, moi j'ai vécu à Calais pendant longtemps. Beaucoup de personnes qui vivent à Calais depuis et qui voient cette situation depuis 10 ans, 20 ans, les centaines de morts qu'on compte à Calais et à la frontière franco-britannique sont le résultat de ces politiques-là, avec ou sans passeurs. Et c'est ça qu'on veut déconstruire, en fait. Et c'est à ça qu'on veut que se serve cette plainte.
La coordinatrice nationale d'Utopia 56, Charlotte Cointès. Le pass vaccinal sera obligatoire dès demain en Tunisie. Toute personne âgée de plus de 18 ans devra présenter ce document pour accéder aux administrations publiques, aux établissements scolaires, mais aussi aux structures de santé ou encore aux cafés et restaurants. Les personnes vaccinées obtiennent ce pass via la plateforme Evax. Il est valable sous deux formes. Il peut être imprimé sous format A4 ou inséré dans les smartphones. Le gouverneur de Tunis indique que les propriétaires des espaces ouverts au public doivent charger un employé pour contrôler les clients et leur passe vaccinal et des sanctions seront appliquées pour tous ceux qui n'appliquent pas cette nouvelle mesure. Le passe sanitaire sera-t-il obligatoire dans les entreprises en France? Le gouvernement va rencontrer cet après-midi les élus locaux et les groupes parlementaires pour prendre ou non cette décision. Cette obligation existe déjà dans les établissements qui reçoivent du public comme les restaurants, les théâtres ou encore les cinémas. Elle concerne pour le moment 2 millions de personnes. La France a dépassé les 3000 malades du Covid-19 en soins intensifs et en cas de forte reprise épidémique, le gouvernement n'exclut pas d'aller au-delà des mesures en vigueur. Retour sur la victoire de l'Algérie samedi dernier lors de la finale de la Coupe arabe des Nations. Une victoire des Fenecs, 2-0 face à la Tunisie au terme des prolongations. Le journaliste et romancier algérien Adlan Mehdi revient tout d'abord sur les scènes de liesse suscitées par le parcours des Fenecs. Adlan Mehdi.
Dès que les Fenecs ont accédé au quart de finale et après le match avec le Maroc, qu'ils ont gagné in extremis après les coups francs, l'atmosphère à Alger, c'était de la folie. C'est-à-dire, on a retrouvé un peu l'ambiance de la CAN 2019. Donc on a repris les défilés, les sorties dehors, les ventes de drapeaux, etc. Les gens se préparaient comme s'ils étaient quasiment assurés de la finale. Et voilà, il y a eu une ambiance la semaine dernière qui était complètement folle. Alger bien avant la finale du samedi déjà.
Avec donc l'apogée samedi soir dernier.
Absolument, les gens n'ont même pas attendu la fin du match. Moi je suis à Alger et les gens ont commencé à sortir, à défiler, à occuper le centre d'Alger. Déjà, les familles, les jeunes, les convois de voitures, les feux d'artifice. Alger a explosé en un moment, c'était quelque chose d'assez émouvant, ça rappelait la Coupe du Monde de 2010 ou la fin de 2019 justement.
Des joueurs se sont révélés lors de cette Coupe arabe des Nations.
Oui, parce qu'il faut préciser que c'est l'équipe, une sorte d'équipe B de l'équipe algérienne. C'est-à-dire que c'est une équipe composée uniquement par des joueurs qui évoluent ou en local, en Algérie, ou dans les clubs arabes. Donc c'est une autre équipe que l'équipe A qui a participé à la CAN ou qui participera à la prochaine Coupe du Monde du Qatar. Donc on a des noms qu'on connaît déjà, comme le gardien de but Raïs Boulhé qui a fait une exceptionnelle CAN en 2019. Mais on a aussi de jeunes noms, de nouveaux noms, de joueurs qui ont prouvé leurs compétences, qui ont fait des performances incroyables. On a aussi le fait que c'est un jeune entraîneur. Majid Bouguera, c'est l'ancien joueur algérien, il est tout jeune, il n'a pas l'expérience d'un Jamal Belmadi, mais il a prouvé qu'il avait les épaules assez larges pour porter une équipe dans une coupe arabe qui quand même avait des équipes fortes, hein, comme le Maroc, l'Égypte, la Tunisie notamment. Et donc voilà, ça a fait une belle révélation d'une équipe de réserve, en guillemets, mais qui a trouvé ses excellentes qualités, finalement.
Vous évoquez la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est aussi une victoire de bon augure pour la Coupe du Monde de 2022.
2023, mais bon, même si c'est la Coupe du Monde, c'est tout autre défi. Mais au moins, s'ils arrivent déjà à être dans les derniers carrés de la Coupe du Monde, les Algériens, s'ils continuent sur la même lancée, avec une invincibilité d'environ 34 matchs jusqu'à aujourd'hui pour l'équipe principale. Donc ça augure bien pour la prochaine Coupe du Monde du Qatar, oui, absolument.
Adlan Mehdi, vous êtes un observateur de la vie politique en Algérie. On sait qu'une telle compétition n'est bien entendu pas anodine non plus sur le plan politique.
On retombe toujours de le même problème, c'est-à-dire qu'au-delà des festivités protocolaires de l'accueil des joueurs, l'impact qu'on attend est double. D'un côté, il faudrait un impact beaucoup plus grand sur le football algérien lui-même. Or, le football algérien lui-même souffre toujours les réformes du football professionnel n'arrivent pas vraiment à donner leurs fruits. On n'est pas arrivé à former vraiment nos propres joueurs. On est toujours dépendant du football européen ou particulièrement français pour, en guillemets, importer des talents. Sur le deuxième plan, de telles victoires ne se reflètent pas directement sur une politique beaucoup plus ambitieuse, sur la jeunesse ou sur les loisirs ou sur ce côté-là du sport en général dans la société. Donc l'impact est très très limité. C'est une explosion de joie, c'est énormément de fierté, de bonheur chez les Algériens, mais c'est pas encore répercuté vraiment sur l'avenir du foot et sur le bien-être de la jeunesse en général.
Ce qu'il faut noter aussi, c'est le côté fair-play, beau joueur de la Tunisie.
Oui, bien sûr, parce que je ne sais pas si vous avez vu les déclarations des commentateurs sportifs en Tunisie ou même du capitaine de l'équipe tunisienne qui disait que l'Algérie gagne, la Tunisie gagne la finale, c'est presque la même chose. C'est inédit de dire ça, mais voilà, les deux équipes, les deux sociétés, les deux peuples sont... On ne va pas tomber dans la démagogie en disant ça, mais c'est une réalité. La Tunisie et l'Algérie, c'est deux pays maghrébins très très proches, comme devrait être l'Algérie et le Maroc aussi. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais non, il y a eu ce fair play qui reflétait l'impact de la proximité entre les deux peuples et les deux pays, effectivement. Et ça se passait au moment où le président algérien venait de rentrer d'une visite importante de Tunisie avec un record de 27 accords signés, 300 millions de dollars accordés à la Tunisie pour aide économique, un appui aux réformes économiques politiques plutôt en Tunisie. Donc là aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, le politique retrouve le football assez rapidement.
Le journaliste et romancier algérien Adlen Mehdi, il est notamment l'auteur de 1994, édité aux éditions Barzac et réédité chez Rivage Noir. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Valérie Petit, députée du Nord, membre d'Agir et d'Horizon, une émission présentée par Loïc Barrière. Et sachez que Radio Orient étend son réseau de diffusion. Votre radio est désormais disponible en DAB+, à Rouen et dans sa périphérie, la radio numérique. Cela après Marseille, Toulon, où Radio Orient est aussi sur la bande FM, Nice, Cannes, Dijon, Avignon et Saint-Étienne. Ce nouveau déploiement porte le nombre de zones couvertes par Radio Orient à 28 secteurs en DAB+, et 11 sur la bande FM. Un très grand merci pour votre fidélité et bienvenue à nos nouveaux auditeurs. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour le journal. Il est midi 17.